Bonsoir à toutes et à tous. N'achetez pas de marque française. Le président turc Erdogan appelle au boycott des produits français. Et ce, après le soutien d'Emmanuel Macron aux caricatures de Mahomet. Erdogan dénonce l'islamophobie qui règne en France. Un pays, dit-il, qui se livre à une campagne de lynchage contre les musulmans semblable à celle menée contre les juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi cette diatribe contre la France? Ces appels au boycott sont-ils entendus? La laïcité à la française est-elle parfois mal comprise à l'étranger? Et puis n'y a-t-il pas aussi une part de tactique politicienne dans les propos du président turc? C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Erdogan-Macron, l'affrontement jusqu'où? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Ariane Bonzon, journaliste indépendante, vous travaillez régulièrement pour Slate.fr et Le Monde Diplomatique. Et je rappelle votre livre, Turquie, l'heure de vérité, c'est aux éditions Empreinte. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de l'Atlas géopolitique du monde global avec Hubert Védrine, et c'est aux éditions Armand Collin. Et enfin, Philippe de Sertine, économiste, directeur de l'Institut de haute finance. Citons votre livre « Le talent et les assassins », c'est aux éditions Anne Carrière. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Armel Charrier, on commence avec vous. Ces appels au boycott, est-ce qu'ils prennent? On a l'impression quand même que ça fait des vagues. Hein. On a vu des manifestations hostiles contre la France au Pakistan, oui, des magasins, des étals vides au Koweït, dans les Émirats arabes unis. On a même vu le Maroc par la voix du ministre des Affaires étrangères, s'offusquer contre, je cite, « des caricatures offensantes, vues comme, disent-ils, un acte de provocation ».
Oui, mais Erdogan a bien joué son coup, en quelque sorte, en appelant à ce moment-là, parce que qu'il y ait traditionnellement des pays qui suivent la Turquie, on l'a vu, parce qu'on a vu qu'il y avait une réaction au départ qui venait du Qatar, on a vu qu'il y avait eu des manifestations du côté de Gaza, ou qu'il y avait eu quelques mots du côté du Liban, et donc du coup, on était quand même sur des pays qui avaient quand même un affichage pro-turc. Après, c'est allé dans d'autres pays qui ont traditionnellement aussi un avantage à regarder ce qui se passe en France avec les questions d'islamisation, avec toutes les querelles qu'il peut y avoir justement sur la question du terrorisme. Et la France, elle affiche des décisions. Elle affiche des décisions quand elle va combattre le terrorisme au Sahel. Elle affiche des décisions quand, à un moment donné, Emmanuel Macron est sur sa question de loi sur les séparatismes, où il ne parle pas des islamistes, mais il les stigmatise quand même. Il dit qu'à un moment donné, il faut arrêter les financements des pays salafistes et des pays frères musulmans. Donc, il cible effectivement des pays du Golfe, pays salafistes et frères musulmans, la Turquie et le Qatar. Donc, il y a eu tout un ensemble de choses qui, à un moment donné, ont pu irriter les uns et les autres. Et puis, on arrive à un moment donné où il y a une trouée, où, effectivement, Erdogan prend bille en tête la France. La France n'est pas très soutenue par d'autres pays autour. Dans le narratif du président Erdogan, il ne rappelle quand même pas qu'il y a eu un attentat terroriste en France avec une décapitation. Ça, on ne parle pas beaucoup. On parle surtout du discours d'Emmanuel Macron qui soutient les caricatures et donc le droit d'une démocratie française à caricaturer. On ne parle pas tellement pourquoi est-ce qu'il a fait ce discours-là. Et donc, à ce moment-là, effectivement, eh bien, Emmanuel Macron est un peu le seul pays européen aussi à tenir tête à la Turquie pour maintes et maintes raisons. Mais du coup, ça lui donne effectivement un talon d'Achille à ce moment-là.
Pascal Boniface, on voit quand même, il y a eu plusieurs réactions assez hostiles dans le monde arabo-musulman. Pourtant, la France, il y a 20 ans, on se souvient de Jacques Chirac, nous étions populaires en tant que Français dans le monde arabo-musulman.
Oui.
C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Depuis la Ve République, De Gaulle était très populaire dans le monde arabe et musulman. Mitterrand également, parce qu'il s'était engagé pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Chirac, bien sûr, effectivement, l'opposition spectaculaire et courageuse à la guerre d'Irak en 2003. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est effrité parce que déjà Chirac a eu peur, rappelez-vous, parce que là, on parle de boycott. Il y a eu une autre campagne de boycott de la part des États-Unis contre les produits français en 2003. Et celle-ci a fait peur à Chirac, qui a modéré. Ensuite, il n'a pas dit « vous voyez, j'ai eu raison ». Au contraire, il a voulu, sa première priorité, dès que la guerre d'Irak a été terminée, c'est de se réconcilier avec les États-Unis et d'accepter l'occupation américaine, etc. Donc, sur le plan diplomatique, il n'y avait pas ce côté un peu chevaleresque qu'avait Chirac ou Mitterrand ou De Gaulle, qui défrayait la chronique dans l'autre sens. On est quelque peu rentré dans le rang, c'est pas banalisé, mais on on est moins flamboyant que l'on a été. Et puis, tous les échos des débats internes en France, eh bien, sont nettement vus à l'étranger. Effectivement, pour certains, alors parfois, effectivement, la laïcité française est difficile à expliquer, mais des fois, elle est aussi mal formulée, mal expliquée, puisque derrière le mot de laïcité, il y a quand même des conceptions très différentes et des débats qui, parfois, sont au-delà de la laïcité et qui ont des échos amplifiés dans le monde arabe et musulman.
Ariane Bonzon, quand on entend le gouvernement français appeler ses ressortissants à la prudence, on se dit quand même que, on a l'impression un petit peu que pour le président turc, nous incarnons le méchant et qu'il y a un petit peu un match, on a l'impression, qui est en train de se jouer entre d'un côté le monde musulman contre l'Occident et l'Occident laïcard symbolisé par la France.
Oui, à une exception près quand même, il faut bien noter les déclarations saoudiennes. L'Arabie saoudite, quand même la grosse puissance sunnite, opposée d'ailleurs à la Turquie, a fait des déclarations extrêmement soft, en disant, il faut accepter, il y a des caricatures du prophète, ça ne nous plaît pas, mais ça ne va pas nous heurter.
Alors, décryptez-nous peut-être.
C'est en soutien de la France. Il faut dire que quelques heures avant que cette déclaration soit faite par le Conseil des Oulémas, c'est-à-dire l'instance religieuse la plus importante d'Arabie saoudite, l'ambassadeur de France avait rendu visite aux autorités saoudiennes, et il y a sans doute eu une négociation. Donc, effectivement, c'est un partenaire important, l'Arabie saoudite.
Est-ce qu'elle ne voit pas aussi d'un mauvais œil ce rôle que veut jouer Erdogan comme le chef de file du monde musulman? Alors, elle se dit, attendez, oh,
voilà, on est dans une compétition, et on l'avait déjà vu lors de 1989 avec Roujdi. L'Iran avait sonné un peu l'alali, et tous les autres pays ne voulaient pas laisser ça aux seules mains de l'Iran. On l'a vu aussi pour une chose française, c'est-à-dire la loi sur le voile en 2004, la même chose. C'est-à-dire que du coup, on veut pas. Alors dans ce cas-là, on ne veut pas, laisser à Erdogan le bénéfice de se présenter comme le protecteur des musulmans à travers le monde. Donc il y a une espèce de rivalité et il en a parfaitement joué.
Philippe de Sertine, c'est inquiétant d'ailleurs pour nos entreprises, ces appels au boycott. On a entendu Geoffroy Roux de Bézieux dire attention, ne nous laissons pas intimider par ces appels au boycott. La France est très présente, on imagine, ne serait-ce que sur tous les marchés d'Afrique du Nord.
Oui, alors on est sur fond de crise économique qui d'ailleurs aussi peut expliquer en grande partie le fait que les puissances et les pays dans lesquels la démocratie est pour le moins extrêmement réduite, ont tendance à aller sur le géopolitique, à l'opposition, etc. Sur fond de crise économique pour la France, évidemment, c'est pas bon parce que nous avons un vrai problème de balance du commerce extérieur, qui est un vrai déficit, qui va nous coûter cher, qui s'amplifie. Si on est uniquement sur la question turque, on voit bien, là, la question française, comment elle est problématique. C'est-à-dire que, on a l'aspect spectaculaire dans les supermarchés, c'est pas des sommes absolument astronomiques. Ce qui était un point fort pour la France, c'était l'exportation d'avions. En ce moment, évidemment, on exporte très, très peu d'avions. En revanche, nous importons beaucoup de produits turcs. On est en déficit vis-à-vis de la Turquie. On pourrait dire on va pouvoir faire des rétorsions. Sauf que le problème, on exporte beaucoup de produits qui sont de marque française. Quand vous allez importer une voiture Renault ou des voitures japonaises, elles sont fabriquées en Turquie. Donc, dans la balance du commerce extérieur, elles viennent
Renault
de Turquie.
Renault a des usines en Turquie. On sait les Clio sont fabriqués en Turquie.
Bien sûr. Hein, c'est-à-dire que là, évidemment, on est dans le problème où boycotter les produits turcs, ça va être compliqué parce qu'il va falloir les identifier. Alors peut-être
c'est
quand
boycotter
même
les voitures françaises, les Renault.
Voilà. Dans l'électroménager, on pourra avoir peut-être des éléments turcs sur lesquels on dira ça, c'est turc. Mais ce que souvent, le public ne l'identifie pas vraiment. Donc,
vous montrez bien la complexité d'ailleurs et le côté un peu grotesque de ces appels au boycott, tant nos économies sont interconnectées.
Oui, bien sûr, mais je pense que là, on est au-delà de ça. En réalité, le boycott a vraiment ce côté symbolique, enlever un fromage célèbre avec une vache qui ne pleure pas. Ça, effectivement, tout le monde en parle et tout le monde dit « Oh là là, il se passe quelque chose de vraiment important ». L'économie derrière est importante aussi parce qu'évidemment, pour Erdogan, il y a un vrai… Je le dis Erdogan à la française, vous me pardonnez. Mais pour Erdogan, il y a une vraie question derrière la problématique économique. Il y a un ralentissement en Turquie, il y a un énorme problème monétaire, il y a un problème réel aussi autour de tout ce qui est l'énergie. On sait que dans tous les conflits qu'allume Erdogan, il y a notamment la question pétrolière, entre parenthèses, qui est sous-jacente en Libye, mais alors qui est très très présente dans les forages que Erdogan conteste à Chypre et à la Grèce. Donc là, on a bien cette question économique qui est sous-jacente. Aujourd'hui, elle est largement dépassée par mes confrères ici, politologues.
Vous voulez dire que parler des caricatures de Mahomet, c'est une façon de détourner l'attention des Turcs face au problème monétaire ou au problème de...
Ça ne fait aucun doute. Ça fait aucun doute, d'ailleurs, qui est la stratégie d'Erdogan depuis des années. Quand, depuis qu'il est au pouvoir, il a eu à plusieurs reprises à faire face à des problématiques économiques. Après des phases de croissance fortes, on a eu une décroissance, ou en tout cas une croissance beaucoup plus faible, notamment depuis la tentative de coup d'État très importante de 2016, qui alors depuis la croissance s'est effritée. Et là, du coup, évidemment, il perd son appui dans la population. Et on retrouve toujours cette idée que quand vous n'avez plus l'appui parce que l'économie va moins bien, rien ne vaut une bonne guerre, ou en tout cas des simili-guerres pour relancer l'Union nationale, qui en Turquie, le sentiment nationaliste, est très très présent.
Alors après avoir questionné la santé mentale d'Emmanuel Macron ce week-end, Erdogan a appelé au boycott des produits français hier, une manière de se poser en défenseur des musulmans, alors que la phrase d'Emmanuel Macron sur sa volonté de ne pas renoncer aux caricatures et aux dessins a provoqué des protestations dans plusieurs pays. Sujet de Juliette Vallon et Ilana Azinko.
Dans les rues de Dakar aujourd'hui, des dizaines de milliers de manifestants avec un ennemi en commun, Emmanuel Macron. Un mannequin représentant le président français est brûlé, son visage symboliquement piétiné. Une colère provoquée par cette phrase prononcée lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty.
Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent.
Un discours reçu comme une provocation par celui qui veut endosser le rôle de leader du monde musulman et de défenseur de l'islam politique, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Samedi, c'est lui qui a officiellement lancé la campagne de discrédit à l'encontre d'Emmanuel Macron.
Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière ? Allez d'abord faire des examens de santé mentale.
Quelques heures plus tard, réponse courroucée de l'Élysée.
Les propos du président Erdogan sont inacceptables. L'outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode. Nous exigeons d'Erdogan qu'il change le cours de sa politique, car elle est dangereuse à tout point de vue.
Un communiqué, et chose rare, le rappel à Paris de l'ambassadeur français en poste à Ankara. Un signal fort envoyé à la Turquie par Emmanuel Macron. Face aux attaques lancées par Recep Tayyip Erdogan, le président français a reçu de nombreux messages de soutien de la part de plusieurs pays européens, comme l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne.
Nous sommes solidaires avec la France en ce qui concerne les attaques personnelles du président Erdogan contre le président Macron du plus bas niveau et que je trouve inacceptables.
Recep Tayyip Erdogan, qui loin de calmer le jeu, appelle aussi son pays à boycotter les produits français. Depuis plusieurs jours, de nombreux États musulmans manifestent leur colère contre la France, comme le Koweït, le Pakistan ou la Jordanie. Dans ce supermarché d'Amman, les marques de cosmétiques françaises, tout comme certaines denrées alimentaires, viennent d'être retirées de la vente en solidarité avec le prophète, peut-on lire sur ses affichettes.
C'est le moins qu'on puisse faire pour soutenir notre prophète et pour qu'il soit en paix. Les Français doivent respecter notre religion et nos principes. Ils ont la liberté d'expression, mais nous aussi. Et s'ils l'expriment par des caricatures, eh bien nous, nous l'exprimons par l'économie. Et on verra au final qui est le plus fort.
Avec le boycott des produits français, quelles conséquences économiques ? Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre la France et ces pays sont assez faibles. Environ 3% de notre commerce extérieur, alors qu'il est de 59% avec les États de l'Union européenne. Interrogé, le président du MEDEF appelle les entreprises à ne pas se laisser intimider.
Il n'est pas question de céder au chantage. Il y a un moment où on doit faire passer les principes avant la possibilité de développer nos affaires. Et donc on est évidemment totalement solidaire du gouvernement français. Et moi, évidemment, j'appelle les entreprises à résister à ce chantage.
De son côté, le recteur de la mosquée de Paris dénonce cette campagne de boycott et appelle les musulmans de France, je cite, à la vigilance face à cette propagande mensongère.
Armel Charrier, on a vu ce monsieur là dans son supermarché en Jordanie. Est-ce qu'on peut comprendre que certains se sentent blessés par ce qui se passe en France ? Ils se disent, mais pourquoi dans ce pays se permet-on d'insulter notre religion ? Est-ce que la laïcité à la française peut être mal perçue, non pas par quelques excités, mais par une majorité qui dit, qui comprend pas très bien les tenants, les ressorts de cette laïcité.
La laïcité à la française, de toute manière, elle est mal comprise par beaucoup de pays. Pour une simple et bonne raison, c'est que la notion de laïcité, c'est très français finalement. Il y a très peu d'endroits où vous avez une séparation entre la religion et l'État. Regardez même le président des États-Unis sur lequel on va avoir des élections, quand il prête serment sur la Bible. Donc c'est vrai que c'est une question, j'allais dire, très franco-française de comprendre le décorrélement qu'on peut faire entre la religion et l'État. Dans plein d'endroits, on n'arrive pas à décorréler la religion et l'État. Et donc si on attaque la religion, on attaque l'État. Donc c'est un peu cet amalgame certainement qui est fait. Alors après que derrière le fait d'avoir des caricatures du prophète, d'avoir le fait qu'on les réédite, etc., ça puisse blesser la rue, oui, certainement, à partir du moment donné où vous l'expliquez de cette manière-là. Mais ce qu'il y a certainement aussi derrière, c'est ce que vous avez commencé à expliquer quand on parle du fait qu'Erdogan soit en guerre sur beaucoup de fronts, qu'il a besoin lui aussi à un moment donné de s'imposer sur la scène internationale, qu'il a un moment donné où il y a les élections américaines, donc il y a un peu un trou, que Poutine n'est pas extrêmement présent, donc il peut prendre ce moment-là, et qu'il a envie de faire un narratif contre un pays qui est la France, peut-être parce que la France, justement, lui a tenu tête sur les sujets géopolitiques, peut-être parce que la France est le grand pays européen qui a reconnu le plus rapidement le génocide arménien de la part des Turcs, là où le Royaume-Uni ne l'a toujours pas reconnu, juste des parlements, l'Écosse ou le Pays de Galles, ils n'ont pas osé se mouiller, les Allemands ont attendu très tard 2015 pour le faire, donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'on peut difficilement expliquer à un monsieur dans un supermarché, c'est que oui, il y a des caricatures qui le heurtent, mais que derrière, il y a un jeu politique et il y a un jeu géopolitique qui fait qu'on est arrivé là.
Mais est-ce qu'on, du coup, on ne s'expose pas à des rétorsions qui pourraient aller ? L'autre jour, là, il y en a eu un attentat dans la rue de l'ancien quartier de Charlie Hebdo, d'un Pakistanais. On a vu des manifestations monstres avec des gens qui au Bangladesh, avec des gens qui piétinent les portraits d'Emmanuel Macron. On va voir la une d'un magazine en Iran avec Macron caricaturé, pour le coup, en Belzébuth. Est-ce qu'on ne s'expose pas à des mesures de rétorsion d'illuminés ?
Il y a, c'est très clair, une confrontation entre deux conceptions, c'est-à-dire le droit à la liberté d'expression, mais le droit au blasphème aussi, en fait. Et puis, de l'autre côté, il y a que ce n'est pas possible de toucher au prophète. Ça, c'est un irréconciliable, hein, il faut l'admettre une fois pour toutes. Alors maintenant, effectivement, le problème, c'est quoi ? C'est que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, Erdogan, il avait perdu un peu le soutien des islamistes. Le parti islamiste en Turquie était passé dans l'opposition. Les frères musulmans commencent à se poser beaucoup de questions sur Erdogan et se demandent s'ils n'ont pas été instrumentalisés. Beaucoup des frères musulmans égyptiens étaient venus en Turquie. Donc, il avait besoin, et on a vu ça ces dernières années, il avait besoin de se refaire un peu une virginité vis-à-vis de la sphère islamiste. Donc, ça participe aussi de ça. À la fois au niveau intérieur, parce qu'effectivement, il y a tout un groupe islamiste qui est dans l'opposition vis-à-vis de lui, donc il est très, très préoccupé, si vous voulez, de ses scores, etc. Et puis, à l'extérieur aussi, parce qu'il y a cette confrontation avec les pays du Golfe sunnites qui ne sont pas du tout le même islam. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument comprendre. C'est que l'islam turc n'est pas le même islam que salafiste, que les saoudiens. C'est un islam extrêmement contrôlé, et c'est là où on revient à la laïcité, à la turque, l'une des raisons pour laquelle...
C'est toujours un État laïque, d'ailleurs, la Turquie.
Alors, c'est toujours un État laïque. C'est d'abord
dans les textes.
Beaucoup de personnes disent que ça n'a jamais été un État laïque. En tout cas, ça n'a jamais été à la française. Parce que c'est une laïcité qui contrôle la religion. À 99%, c'est l'islam. Bon, un peu plus compliqué que ça, mais enfin, en gros, oui. Mm-hmm. Et c'est une religion d'État. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont payés, formés par l'État, ce sont des fonctionnaires. Il y a un département des affaires religieuses qui est d'ailleurs rattaché au président Erdogan lui-même. Et on le sait, ils envoient, par exemple en France, 150 imams qui sont des fonctionnaires payés, salariés, et qui tous les vendredis déclament, tous les vendredis en France, ils déclament le prêche qui a été écrit en Turquie.
Et Pascal Boniface, c'est vrai qu'on apprend qu'il y a 300 imams détachés, donc financés par des pays étrangers en France. Et là, sur ces 300, il y en a 150 qui viennent de Turquie. La Turquie est le premier fournisseur, j'allais dire, d'imams détachés. Pourquoi la Turquie s'intéresse-t-elle à ce point à la France ? Et est-ce que ces imams envoyés par la Turquie ont une influence dans leur prêche auprès de nos concitoyens qui vont à la mosquée.
Oui, les imams qui prêchent ont une influence sur les gens auprès desquels ils prêchent, puisqu'ils ont la confiance des croyants. Alors pourquoi
est un peu politique, du coup, on peut imaginer ?
Il est surveillé quand même, mais effectivement, il est politique. On sait qu'il y a, enfin, il y a autant de discours qu'il y a d'imams et autant de variétés qu'il y a de mosquées. Pourquoi des imams étrangers ? C'est qu'on n'avait pas d'imams français, donc c'est l'étranger qui envoyait des imams, non seulement la Turquie, mais également d'autres pays, l'Algérie, le Maroc, etc. Les Saoudiens également, et avec de façon très problématique. Puis nous avons aussi beaucoup de Français qui sont d'origine turque, donc il n'était pas tout à fait anormal. Et aussi une compétition finalement interne national qui se joue en France pour savoir qui contrôle l'islam dit de France, qui est également, il y a quand même une compétition des pays étrangers qui sont musulmans, parce que...
Quel sera le pays qui aura le plus d'influence sur l'islam
c'est
de France.
Ça. Donc c'est tout l'enjeu. Et c'est vrai que du coup, l'islam a également cru en France après la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, effectivement, il y avait, les églises étaient là. Ouais. Et pendant très longtemps, les musulmans, il y avait très peu de musulmans en France. Enfin, après, ils sont venus plus nombreux. Dans un premier temps, ils n'ont pas revendiqué le droit de pouvoir avoir des mosquées parce qu'ils pensaient qu'ils étaient de passage, qu'ils savaient que cette revendication politique ferait l'objet de nombreuses critiques, serait devenue inacceptable. Enfin, il fut un temps quand même où il y avait de nombreux Arabes qui étaient tués dans la rue, dans les années 80, il y avait quand même les ratonnades, etc., qui existaient quand même. Et puis ensuite, une autre génération est arrivée qui a réclamé le droit d'avoir des mosquées. Et donc, effectivement, dans la mesure où l'État ne peut pas les financer,
il faut bien trouver
l'argent. Et c'est bien le problème d'un financement national de cette religion.
Et qu'on essaye de résoudre en ce moment. Question téléspectateur. Dans cet affrontement, la France est-elle suffisamment soutenue par ses alliés ? Philippe de Sertine, on a vu des tas de communiqués de la part de Mark Rutte, des Pays-Bas, même Angela Merkel, on l'a entendu dans le reportage, le porte-parole d'Angela Merkel a soutenu Emmanuel Macron, alors que jusqu'à présent, l'Allemagne était très... pas de vague en matière vis-à-vis de la Turquie.
Oui, c'est-à-dire l'Allemagne a une problématique turque qui lui est bien spécifique, puisqu'il y a une très très grosse immigration turque dans le passé, qui a été aussi à l'origine du miracle allemand, on va dire. Et donc évidemment, les Allemands sont toujours extrêmement, extrêmement méfiants et en même temps ne veulent pas, on va dire, offenser la problématique turque. Souvent, la France a joué un rôle là de ce point de vue. Par exemple, pour la question de l'adhésion de la Turquie à l'Europe, il est clair que la France souvent a essayé de rendre service à l'Allemagne pour avoir une position qui ne soit pas une position d'exclusion, mais en même temps de pas de grands bras ouverts, on va dire. Alors là, on sent bien qu'en Allemagne, on est quand même sur un moment extrêmement particulier dans l'histoire des relations entre la Turquie et l'Union européenne et entre l'histoire de la relation entre la France et la Turquie. Et donc l'Allemagne comprend qu'elle ne peut pas rester neutre. On va dire le moins qu'on pouvait faire, c'était effectivement la prise de position qu'on a entendue tout à l'heure du ministre des Affaires étrangères allemand. Après, quand on est en train de regarder là où la France est engagée contre la Turquie, puisqu'il faut le rappeler, cette année 2020, on a eu vraiment des engagements militaires. C'est-à-dire notamment, on va dire, en Méditerranée, autour de la question libyenne, ou autour, là, la question grecque, qui est là plus compliquée, parce que Grèce, Chypre, c'est l'Europe. Donc la Turquie n'est pas dans l'Europe. La Turquie est associée à l'Europe, c'est-à-dire qu'on est bien dans une situation où la Turquie n'a pas de droit de douane, c'est-à-dire elle est du point de vue économique avec l'Europe, mais elle ne fait pas partie de l'Europe.
Mais on a l'impression quand même qu'on a entraîné un peu de force, du coup, toute l'Europe dans notre combat laïque contre, pour les caricatures et contre la diatribe d'Erdogan.
Oui, je crois qu'alors, dans l'affaire turque, on a la question, évidemment, qui est consécutive, il faut le dire sans cesse, après le meurtre absolument innommable de Samuel... Samuel Paty sur le territoire français. Donc là, on a vraiment là aujourd'hui cette question exacerbée dans le monde musulman, mais on a une montée de tension avec la Turquie depuis plusieurs mois, et répétons-le, sur plusieurs fronts. On n'a pas parlé aussi du Haut-Karabakh, toujours pareil, là derrière vous avez l'Azerbaïdjan, vous avez presque toujours, quand vous regardez, à un moment donné l'énergie, c'est-à-dire les réserves de gaz d'Azerbaïdjan qui doivent alimenter la Turquie. On voit très bien, en réalité, sans acte, on a la Russie avec les questions d'exportation du gaz russe qui passe par le territoire turc vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a ces questions sans sans cesse là, qui étaient des questions très très tendues, qui deviennent géopolitiques, parce que la Turquie, notamment pour essayer, répétons-le, de détourner l'attention de la population de ces difficultés économiques grandissantes que sente la population, vraiment, les gens sentent bien que les choses ne vont pas bien et qu'on a des difficultés, et là, on a de la géopolitique de plus en plus forte, avec effectivement l'Europe qui doit à un moment donné se poser des questions.
Mais justement, Pascal Boniface, avant le gendarme du monde, c'était les États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas là, dans ce conflit, dans cette opposition, l'illustration de ce que disait Emmanuel, de ce que disait Angela Merkel, l'Europe doit prendre son destin en main. On a l'impression qu'on est tout seul, qu'on n'attend plus rien des Américains. On est tout seul pour essayer de faire régner non pas une Pax Americana, mais une Pax Europea.
Avec des États-Unis plus présents, je ne sais pas si Erdogan aurait traité, se serait interrogé sur la santé mentale de son allié, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous sommes dans la même alliance, l'OTAN, depuis l'origine, et que Emmanuel Macron s'était, à propos d'Erdogan également, à propos de Trump, mais aussi d'Erdogan, interrogé sur le fait de savoir si l'OTAN n'était pas en état de mort cérébrale. Et effectivement, peut-être que sur d'autres sujets, les Allemands et les autres Européens seraient moins allants pour nous soutenir. Mais il y a deux choses. Un, là, on parle de commerce. Or, le commerce, c'est une responsabilité de l'Union européenne. Il n'y a pas. Et là où Erdogan a peut-être mal visé, c'est qu'il ne peut pas s'attaquer à la France seule. Enfin, il peut demander à boycotter par les citoyens les produits français. Mais le commerce international, c'est une compétence de l'Union européenne. Et les accords que l'on a, ce n'est pas des accords franco-turcs, ce n'est pas des accords germano-turcs, ce sont des accords Union européenne-Turquie. Et donc, ça change. Et puis, effectivement, on arrive à un moment où Ursula von der Leyen a parlé d'une commission géopolitique. Que le Covid-19 est venu, on a vu le plan de relance qu'on pensait impossible parce que pas de dette commune, etc. Il y a un moment européen en ce moment.
Ah ouais. Il y a un moment européen. Et donc s'attaquer à la France et s'attaquer à l'Europe.
Et s'attaquer à la France et s'attaquer à l'Europe, puisque entre les défaillances de Trump, la montée en puissance parallèle de la Chine et les provocations d'Erdogan, l'Europe, eh bien, en plus, en fait, avec le Brexit, eh bien, l'Europe est obligé, ne peut plus attendre. Les Européens se sont dit, il faut quand même qu'on agisse un peu de façon plus volontaire, de façon plus géopolitique, effectivement. Et là, il y a un moment européen.
Les alliés européens ont été au rendez-vous.
Tout à fait.
Voilà. Armelle Charrier.
Alors, ils le sont peut-être un petit peu plus maintenant, parce que quand même, effectivement, comme c'est la question sur les caricatures, l'Europe, on est quand même beaucoup de pays en démocratie, avec une liberté de la presse, avec une capacité à caricaturer, donc remettre en cause la santé mentale d'un président, ça fait un peu réagir. Parce que les réactions que vous avez eu, quand il y avait eu les questions sur la Grèce, par exemple, ou surtout quand on avait eu le bateau Le Courbet, qui avait la frégate qui était intervenue devant les eaux libyennes et qui avait été illuminée par un bateau turc parce qu'elle voulait contrôler sa cargaison, et qu'on s'en était ému, à juste titre, parce que c'était un acte militaire.
C'est
juste
le
moment juste avant de tirer. Donc pour les militaires, c'est un acte de guerre, donc c'est quelque chose de grave. Et donc quand on était allé en parler dans le cadre de l'OTAN, là, on n'avait pas eu la même cohésion. Parce que les Allemands, à ce moment-là, étaient quand même en train de se dire que, justement, au nom de leur population, au nom d'une population qui vote quand même beaucoup l'AKP, il fallait quand même faire attention. Il y avait la question des migrants derrière. Les Italiens ont toutes les questions de pétrole avec lesquelles ils voulaient quand même signer des contrats avec Sarraj, et nous, on est plutôt avec Haftar. Donc, il y avait quand même toute une question qui était là, à peine tenue d'un film, et personne ne voulait en parler du côté des Italiens. Il y avait même les Américains qui auraient pu prendre position, mais les Américains, on est dans le cadre de l'OTAN. Je vous rappelle que...
J'étais presque du côté des Turcs.
Bah oui, parce que quand même en Turquie, il y a quand même une base importante dans laquelle il y a les têtes de missiles nucléaires américains, enfin de l'OTAN, et puis il y a quand même l'état-major à Izmir, l'état-major de l'OTAN. Donc je veux dire, le cadre turc est quand même central dans le cadre de l'OTAN et dans le cadre américain. Donc c'est vrai que pendant un temps, on a quand même laissé la France jouer seule avec la Grèce quand il y a eu ça. Bon, là maintenant, il y a au moins un peu plus de cohésion diplomatique.
Alors, donc Erdogan a réussi à créer un moment européen, c'est ce que vous nous expliquez, Pascal Boniface. Est-ce qu'il n'a pas réussi à créer une union nationale en France que souhaitait tant Emmanuel Macron? Je cite le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, qui répond à Erdogan et qui lui dit « Non, monsieur Erdogan, les musulmans ne sont pas maltraités en France. » Et toute la classe politique, de Marine Le Pen à Adrien Quatennens, tout le monde critique les attaques d'Erdogan contre Emmanuel Macron. Il a réussi à la faire, l'Union nationale en France.
Il faut voir combien de temps ça va tenir. Ça, c'est quand même... Mais c'est sûr, je dirais que ce n'est pas Macron qui a réussi, c'est plutôt Erdogan qui a réussi. Peut-être que ça, en revanche, et effectivement, il y a une telle détérioration des relations. Parce que le moment européen, c'est cet été, la victoire de Macron, c'est cet été où il est monté en puissance. Et effectivement, il a quand même déployé sa force navale, militaire, face à la marine turque en mer Égée. Hein. Et là, il a dit aux Européens, il faut quand même vous ressaisir. Donc, on est dans la continuité aujourd'hui. Et, je pense que la position du champ politique français aussi n'est pas indifférente ou est à articuler aussi avec la réaction européenne. Autrement dit, si les Européens commencent à se mobiliser, si en revanche les Français laissent Macron tout seul, là, il y aura un problème. Donc, je pense que là, il y a quelque chose effectivement qui s'est joué. Voyons combien de temps ça va durer. Et puis, il faut quand même dire qu'un certain nombre d'arguments de certains ministres français, ils ont quand même des échos qu'on a entendus à l'extrême droite, parfois. Donc, effectivement, l'extrême droite est plutôt contente. Là, il y a un certain nombre de positions qui ne sont pas les positions classiques d'un gouvernement du centre.
En tous les cas, pour aller dans le sens du moment européen, à l'instant, on me dit que le Premier ministre des Pays-Bas déclare ce soir qu'il a un message très simple à l'adresse d'Erdogan. Il déclare qu'il est pour la liberté d'expression et que de la liberté de la presse et que cela inclut le droit de caricaturer. Philippe de Sertine, finalement, l'Europe, qu'on dit souvent insaisissable, quel numéro de téléphone? Eh bien, il y a une petite coalition qui naît, alors peut-être à la faveur du retrait américain, peut-être à la faveur des outrances de certains autocrates, mais elle existe, cette Europe, façon géopolitique.
Et à la faveur du Covid aussi, hein, c'est-à-dire de la crise économique, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait qu'on bascule maintenant dans un endettement européen, c'est-à-dire on a bien le sentiment qu'on est face à des difficultés très très fortes et qu'il va falloir faire quelque chose. Je crois vraiment qu'une des questions majeures maintenant qui est devant, le grand cahier européen et plus particulièrement Ursula von der Leyen, qui à mon avis d'ailleurs a des idées sur la question, c'est la problématique vraiment militaire. Parce que là, quand on évoque la Turquie, il faut se souvenir, la Turquie est équipée aussi en partie par l'Allemagne. Elle a notamment du point de vue naval, donc là, très important dans ce qui se joue en Méditerranée actuellement, hein, puisque là, on est vraiment sur la logique du vieil empire ottoman, hein, c'est-à-dire, très clairement, Erdogan est en train d'essayer de reconquérir toutes les bases du grand empire ottoman d'avant la guerre de 14, donc il a besoin de marine. Et évidemment, dans la marine, il ne produit pas lui-même suffisamment, les Allemands l'équipent beaucoup. Donc là, on a vu l'Allemagne qui commence à réfléchir là-dessus. Alors du coup, d'ailleurs, il s'est équipé avec des armes russes, là, quand il est intervenu. Alors, on faudra regarder ce qu'a fait la Chine derrière, parce que la Chine probablement est prête aussi éventuellement à mettre son grain de sel là où ça fait mal du point de vue européen. Mais là, vraiment du point de vue européen, à mon sens, on a une vraie question sur la problématique militaire, sur la réflexion qu'on doit avoir. Rappelons quand même qu'Emmanuel Macron, quand il avait parlé de la mort cérébrale de l'OTAN, avait aussi demandé, commencé à appeler de ses voeux, il n'y avait pas du tout plus aux États-Unis une armée européenne, c'est-à-dire là, en clair, des budgets, quoi. Des budgets qu'il va falloir mettre, et ça, c'est une vraie question qui est devant nous.
Si j'ai bien compris Philippe de Sertine, l'Allemagne abandonne son vieux logiciel qui consistait à dire « nous, on fait du business, on ne s'occupe pas de géopolitique, on laisse ça aux Américains ». Non, maintenant, on a les Allemands qui disent « peut-être qu'il faut s'interroger quand on fait du commerce avec tel et tel pays, et peut-être qu'il y a d'autres principes géopolitiques qui prévalent sur les intérêts commerciaux ».
Il ne faut pas
aller jusque-là.
Alors, permettez-moi de m'utiliser, mais caricaturer trop la position allemande depuis plusieurs années. Les Allemands sont dans une logique géopolitique. Ils ont d'ailleurs décidé d'augmenter leur budget d'armement de manière significative. Ils ont eu à plusieurs reprises le sentiment qu'effectivement, il y allait avoir nécessité de prendre en charge nous-mêmes notre avenir. Je crois vraiment que la campagne qui s'était passée il y a 4 ans aux États-Unis, avec Trump disant d'ailleurs, et aux Japonais et aux Européens, il va falloir prendre en charge votre propre défense, c'est quelque chose aujourd'hui dont on sent que c'est vraiment quelque chose maintenant d'actualité forte vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis du Proche-Orient. Nous avons nécessité, la France ne peut pas tout faire, là, très clairement quand même, au moment où nous décidons d'un lancement d'un nouveau porte-avions, enfin on commence à réfléchir, un porte-avions, c'est pas suffisant. Et alors en plus, évidemment, la Grande-Bretagne qui reste notre allié mais qui n'est plus dans l'Europe, était l'autre grande force militaire dont on a besoin.
Alors, on en a parlé hein, tout à l'heure, Syrie, Libye, conflit du Haut-Karabakh ou encore influence des imams turcs en France. Les points de désaccord entre Emmanuel Macron et Erdogan se multiplient et sont l'occasion de passe d'armes entre les deux dirigeants qui sont pourtant, on l'a dit sur le papier, alliés au sein de l'OTAN. Vous voyez ce sujet de Laura Rado et Benoît Thébault.
C'était le temps de l'entente cordiale. En janvier 2018, Emmanuel Macron déroule le tapis rouge à Recep Tayyip Erdogan. À l'époque, le président français voit en son homologue turc un allié pour les questions migratoires et sécuritaires.
La coopération que nous avons avec la Turquie est stratégique, elle est de qualité et elle est vérifiée comme étant de qualité chaque jour.
L'époque des sourires et des amabilités sera de courte durée. En quelques mois seulement, les relations s'enveniment. octobre 2019. Ankara lance une offensive contre les soldats kurdes en Syrie. Des soldats pourtant engagés dans la lutte contre le groupe État islamique aux côtés des membres de l'OTAN. Erdogan devient un partenaire embarrassant. Emmanuel Macron lâche alors dans la presse britannique.
Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN.
Réaction immédiate et violente du président turc qui reprend les mots du président français.
Que dit-il ? Que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Monsieur Macron, je te le dis depuis la Turquie et je le redirai à l'OTAN. Fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale.
L'offensive fait des centaines de morts et des milliers de réfugiés qu'Erdogan a promis de garder sur son territoire. Mais le président turc réclame plus de soutien des 27 dans le conflit syrien. Et comme souvent, il menace de laisser passer des centaines de milliers de migrants vers l'Europe. La France dénonce le chantage de la Turquie. Dans le dossier libyen également, Recep Tayyip Erdogan fait cavalier seul et agace. Paris accuse Ankara d'envoyer des armes et des combattants en violation de l'embargo international. Emmanuel Macron se fâche une nouvelle fois.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin.
La tension est encore montée d'un cran cet été, cette fois bien au-delà des mots. Début août, la Turquie déploie ce navire dans les eaux territoriales grecques. Il est à la recherche de gisements gaziers. La France décide d'envoyer deux avions de chasse et deux bâtiments de guerre en soutien à la Grèce. Emmanuel Macron se place une nouvelle fois en première ligne face à Erdogan.
Force est de constater qu'aujourd'hui la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région. Nos lignes rouges sont simples. Le respect de la souveraineté de tout État membre européen, le respect du droit international, la condamnation de tous les actes unilatéraux. Notre volonté, c'est d'éviter toute escalade. Mais éviter l'escalade ne doit pas signifier la passivité ou l'acceptation.
La présence militaire française en Méditerranée orientale provoque la colère de celui qu'on surnomme parfois le sultan turc. La réplique est cinglante et personnelle.
La France est souvent à l'ordre du jour. Je ne veux pas donner de nom, mais j'y suis obligé parce qu'il s'en prend souvent à moi. Il dit « Nous n'avons pas de problème avec la Turquie, mais avec Erdogan. » Mais tu n'as pas fini d'avoir des ennuis avec moi, Macron.
Dernier duel à distance dans le Caucase, où un conflit de longue date oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan, soutenu par Ankara. La Turquie est accusée d'y envoyer des miliciens armés. Emmanuel Macron a demandé des explications à son homologue turc. Recep Tayyip Erdogan a aussitôt démenti.
Pascal Boniface, je vous voyais sourire pendant le reportage sur la façon très virile qu'a Erdogan de parler des relations internationales. Mais ça joue d'ailleurs le côté combat de coq un petit peu, Tayyip Macron.
Il a un langage qui rappelle un peu celui de Trump, hein, d'un certain côté de Bolsonaro. Enfin, c'est effectivement... Alors, il tutoie déjà en l'appelant sans monsieur par son nom de famille, sans maître. Voilà, donc c'est effectivement une sorte d'apostrophe un peu adolescente, comme si c'était deux bandes rivales qui s'accrochent. Effectivement, ça peut avoir des résonances, parce qu'il y a une partie des opinions dans tous les pays qui aiment bien être dirigées par un homme fort qui ne s'en laisse pas compter. Voilà. Et donc, les mâles alpha sont au pouvoir dans certains pays et ça plaît une partie de l'opinion et c'est le cas en Turquie.
Mais alors justement, question téléspectateur, Erdogan ne joue-t-il pas avec le feu en défiant les grandes puissances comme la Russie, les États-Unis ou la France ? Parce qu'il défie la Russie quelque part au Haut-Karabakh, hein, dans cette bataille entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et Erdogan prend fait et cause pour l'Azerbaïdjan.
Oui, et d'ailleurs, Vladimir Poutine a répondu au défi d'Erdogan en en allant bombarder dans la région d'Idlib ce week-end là, des djihadistes, 80 djihadistes qui étaient pro-turcs. Hein, donc du coup, on attendait un peu la réponse et on l'a vu commencer à arriver sur l'énervement. Oui, il est en train de défier tout le monde, mais certainement parce qu'il sait qu'il est aussi à un bon moment. C'est-à-dire que les États-Unis sont en ce moment en faiblesse avec les élections. Vladimir Poutine s'était mis un tout petit peu à côté, et puis il y a effectivement toutes les affaires de Covid. Il y a toujours cette compétition en tête, finalement, Ariane en parlait tout à l'heure, mais de l'Empire ottoman, qui veut se jauger par rapport aux autres, donc c'est-à-dire aussi aux puissances du Golfe, dans un esprit d'islam. Donc c'est à un moment donné où il attendait. Et donc il a ouvert une brèche sur la Syrie, il a ouvert une brèche sur la Libye, parce que là il y avait des vrais accords économiques, vous en parliez, il y a vraiment beaucoup à gagner. Il a ouvert une brèche en Grèce, c'est plus classique. Il a réouvert le Haut-Karabakh dans le Caucase, et il l'a fait fortement en plus, parce que les armes qu'il a employées sont des vraies armes. Les drones ont tapé très fort, les chars ont totalement explosé, comme on l'avait rarement vu, donc c'est vraiment les drones armés qui arrivent d'en haut, parce que les chars, habituellement, c'est protégé sur les côtés, qui font exploser toute la défense arménienne dans le Haut-Karabakh de cette manière-là. Donc en ce moment, il ne s'embarrasse pas. Et puis la dernière chose, c'est qu'il savait très bien qu'il a le S-400 qui énerve les Américains.
Le S-400
c'est le système en fait anti-aérien. Il vient juste de l'essayer. Alors que les Américains savaient qu'il avait, lui disaient il ne faut pas l'essayer, il vient de le faire. Donc mais il fait tout au moment.
Avec toutes ces revendications territoriales et aussi tous ces combats sur la question religieuse, qu'est-ce qu'il cherche Erdogan ? On a l'impression qu'il joue, parce que vous parliez de l'Empire ottoman, est-ce qu'il joue sur cette corde nationaliste qui consisterait à parler aux Turcs de restaurer l'Empire ottoman démantelé au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui parle à tous les Turcs, j'imagine, la grandeur de l'Empire ottoman.
C'est la saison 3 d'Erdogan. C'est la saison 3. C'est-à-dire que là, il est dans le legs. C'est-à-dire qu'il sait très bien que quand même il y a un moment où ça va se terminer et il essaye de construire quelque chose qui va rester dans l'histoire, c'est-à-dire une nouvelle affirmation de la puissance régionale de la Turquie. J'aime pas trop le mot néo-ottoman parce qu'en vérité, bon, si vous voulez, en fait, son entourage est fait de nationalistes anti-américains, pas du tout islamistes, pas du tout ottomanistes, plutôt eurasistes, c'est-à-dire tourner vers la Russie, tourner vers l'Asie,
mais pas européen. L'islam est une des cordes de ce nationalisme ?
Alors, l'islam a toujours été une corde. On imagine que les kémalistes étaient des laïcs purs et durs. Non, Mustafa Kemal voulait épurer l'islam. C'est pourquoi je vous disais que l'islam turc n'est pas comme les autres islams. Il voulait l'épurer d'un certain nombre de dogmes, en fait, de choses. Voyez, il voulait épurer un peu l'islam, mais il
moderne.
En a fait surtout un élément fondateur de la République turque. D'ailleurs, c'est pour ça que les minorités chrétiennes, etc., ont été, pour certaines, massacrées, etc. Donc, il y a une identité turque qui est indissociable du nationalisme, évidemment, et de l'islam. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le président Erdogan arrive à faire une alliance avec des ultranationalistes et puis avec une nouvelle alliance, hein, qui n'était pas celle du début, avec des ultranationalistes et avec tout un courant, en particulier à l'armée, de racistes, de types qui sont plus tournés vers l'Asie que vers l'Europe.
Je crois que aussi ce qui est important par rapport, et juste pour compléter ce que vous venez de dire, en Turquie, avant Erdogan, avant AKP, c'est l'armée qui a été au cœur du pouvoir, d'ailleurs, qui a fait
l'armée laïque.
Oui, jusqu'en 97. C'est quand même le dernier putsch. Enfin, c'est-à-dire là, on est vraiment avec une place très très forte de l'armée qui a été le défenseur à la suite de Kemal, qui était général. Hein, c'était en 2023. Hein, donc je pense que en 1923,
les 100 ans de.
Ça, il y a un côté symbolique très fort. Et je crois que là, aujourd'hui, l'armée est quand même toujours puissante dans la société turque. Il y a eu des reprises en main très, très fortes, des limogeages, des arrestations de généraux. Mais néanmoins, ce qu'on voit quand même là, c'est que justement aussi, on donne satisfaction à l'armée dans un certain nombre de territoires où elle s'exprime. On l'a dit tout à l'heure, quand l'armée est en train de massacrer les Kurdes, ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi une constante dans la société turque, y compris de la société kémaliste, hein, c'est-à-dire l'oppression du Kurdistan. Là, ça a été très, très fort. L'armée est en première ligne. L'armée, il faut le rappeler, c'est la grande puissance économique aussi au sein de l'État turc. L'armée a investi dans énormément de types d'activités, y compris des activités de construction, de pétrole, etc. Donc l'armée est une force dans l'État. Là, probablement aussi du point de vue Erdogan, il est important de donner satisfaction à un certain nombre de chefs qui lui ont fait allégeance. Il en a éliminé un certain nombre. D'accord. Mais ceux qui lui ont fait allégeance, eh bien finalement, il leur donne des territoires où s'exprimer.
Pascal Boniface, on est abasourdi par le changement de regard qu'on a sur la Turquie. Enfin, il y a 10 ou 15 ans, ou il y a 20 ans, on parlait d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et la Turquie faisait des efforts.
Oui.
On lui a donné quelques baffes et finalement, elle a compris qu'elle n'y entrerait jamais. Et du coup, elle s'est radicalisée dans l'autre sens.
Oui, vous avez tout à fait résumé la situation. L'histoire a mal tourné parce qu'à la fin de la première décennie de ce siècle, on parlait de la Turquie comme un pays qui se modernisait à grande vitesse, qui avait une très forte croissance économique, qui avait maîtrisé sa démographie et qui, au bout d'un certain temps, pas immédiatement, mais était éligible à l'adhésion européenne avec une perspective plus lointaine. Et rappelez-vous, puisque Philippe Dessertine parlait du Kurdistan, qu'il y avait des négociations entre le leader du PKK, Öcalan, et Erdogan, et qu'un accord de paix était en vue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est jamais un seul facteur, c'est plusieurs. Effectivement, des pays européens, dont la France, de Nicolas Sarkozy, a un peu claqué la porte au nez de la Turquie en disant « Vous êtes un pays musulman, donc vous ne pouvez pas rentrer dans l'Union européenne ». Alors, on pouvait mettre des conditions sur la démocratie, sur ça, mais il y a eu un peu le sentiment que, pour certains, c'était le fait que la France, que la Turquie soit un pays musulman qui l'empêchait d'adhérer à l'Union européenne. Donc, c'était plutôt mal ressenti. Et les débats actuels sonnent un petit peu avec cela. Et puis, aussi, un élément important, c'est le début de la révolution, puis de la guerre civile en Syrie, qui a réouvert d'une autre façon la question kurde. Et pour les Turcs, la question kurde, ce n'est pas une question de sécurité, c'est une question existentielle. Et donc, effectivement, pour eux, Daesh est une menace moins importante que la perspective d'une sécession.
D'un Kurdistan indépendant, voilà. Qui est pour eux et donc, une partie de la Turquie. Bon. Hein.
Et puis aussi, le coup d'État de mémoire en 2016, si je ne me trompe pas, où les Turcs ne sont pas sentis tout à fait soutenus.
Par les Européens
en disant vous nous parlez de démocratie, un coup d'État militaire. Après, lui en a profité pour réprimer, virer plein de gens dans l'université. Il y a eu un mouvement, effectivement. Mais petit à petit, il y a eu une rupture et beaucoup de gens qui, au départ, ne votaient pas pour Erdogan parce qu'ils n'appartenaient pas à son parti, mais au moins lui reconnaissaient d'avoir modernisé le pays, de l'avoir développé, d'avoir dû plus fort sur la scène internationale. Maintenant, ces gens-là ont peur pour leur liberté. Il y a eu vraiment plusieurs tournants successifs, en fait.
Alors, on l'a bien compris, hein, Erdogan s'active beaucoup sur la scène internationale depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est peut-être pour faire oublier les difficultés qu'il rencontre dans son propre pays. Économie en berne, exercice du pouvoir contesté, la popularité du président turc s'amenuise petit à petit et l'opposition compte bien en profiter. Reportage à Istanbul de Pierre Minet-Bellando et Stéphane Lopez.
À l'ouest d'Istanbul, non loin des eaux de la mer Noire, la petite commune de Duruşu, théâtre depuis quelques mois de tensions entre l'État turc et Zehra Delmas, simple coiffeuse devenue figure d'opposition.
S'ils construisent le canal, ce parc disparaîtra, ces jeux pour enfants vont disparaître. Même les gens qui vivent ici vont disparaître. Ça fait des années qu'on vit ici, on a investi ici, nous avons nos proches ici. On ne peut pas vivre ailleurs.
Ce sentiment d'injustice, Zehra le porte en elle depuis près de 10 ans, depuis que sa commune s'est retrouvée sur le chemin d'un projet pharaonique, le canal Istanbul. Une immense voie d'eau, parallèle au Bosphore, censée devenir un nouvel axe commercial. Un chantier à 11 milliards d'euros, cher au président Erdogan, mais jugé inutile et bien trop coûteux par ceux qui s'y opposent.
Ce gouvernement est une calamité. Quand je regarde les politiques qu'ils nous imposent, il n'y a rien de bon. Ils ne font rien pour nous. Tout ce qu'ils font, c'est pour leurs propres partisans, pour assurer leur vote. Les riches deviennent riches, les pauvres restent pauvres. Ceux qui sortent de l'université ne trouvent pas d'emploi, l'inflation augmente. Et alors que nous sommes en pleine pandémie, quand il y a autant de chômage, d'inflation, de pauvreté, je ne vois pas en quoi c'est nécessaire de construire un canal.
Autrefois isolé, ces critiques envers le gouvernement trouvent aujourd'hui un écho. Une figure politique défie depuis peu le pouvoir d'Erdogan, celle d'Ekrem İmamoğlu. Mars 2019, ce candidat de la gauche turque remporte la mairie d'Istanbul, sous contrôle du parti présidentiel depuis 25 ans. Une victoire et un désaveu pour la politique du président. L'économie est en berne et son régime jugé autoritaire par beaucoup depuis une récente réforme constitutionnelle. Un terreau favorable aux idées d'opposition. Restait alors à unir les différents courants.
Nous avons réussi de tisser les alliances entre les autres partis politiques. Et donc, notre candidat était presque un candidat unique dans l'opposition démocratique. Un tel succès me paraît un succès qui dépasse les frontières d'Istanbul, qui dépasse d'une mairie métropolitaine qui va influencer sur l'alternance politique en Turquie.
Mettre fin à près de 20 années de règne de Recep Tayyip Erdogan, possible selon de récents sondages qui placent le maire d'Istanbul devant le président turc en cas de scrutin. Mais l'élection est prévue pour 2023. Et entre-temps, dès qu'un argument s'y prête, l'opposition est réprimée. Des représentants politiques sont régulièrement envoyés en prison. Certains journalistes tremblent aussi. Tunçay Akgün est le rédacteur en chef de Leman, le premier journal satirique de Turquie.
Ça, c'est une vraie citation d'Erdogan. Il a dit de l'Occident, nous n'avons pas pris la science et les connaissances, mais juste l'immoralité. Et puis cette photo, elle est vraie, il a fait ça. Eh bien écoute, ça m'a valu une plainte.
Il raconte subir régulièrement les attaques du pouvoir et se dit pessimiste pour l'avenir de la presse d'opposition.
C'est très difficile de faire de la satire en Turquie aujourd'hui. Nous avons de vrais problèmes de liberté d'expression ici. Il y a une oppression très forte. La liberté de la presse a été restreinte. Le gouvernement contrôle 95% des médias. Nous faisons partie de la minorité qui reste dans l'opposition. Nous, à Leman, ça fait 40 ans que nous sommes un journal d'opposition. Ça a toujours été difficile, mais ça l'est particulièrement en cette période.
Tunçay Akgün, lui, ne partage pas l'optimisme des sondages pour le scrutin de 2023. Nous l'avons invité à dessiner sa vision du futur de la Turquie. Il s'illustre lui-même, dessinant une caricature sous la surveillance d'un président plus intimidant que jamais.
Question téléspectateur, quelle opposition politique reste-t-il face à Erdogan ? Armel Charrier, c'est terrible parce que dans ce reportage, on voyait une liberté d'expression qui commençait à s'éteindre, à pâlir.
Ah oui, là, les journalistes sont effectivement... C'est très difficile de travailler en Turquie, bien évidemment. C'est pour ça qu'en fait, quand on parle de la question des caricatures en France, quand on le ramène à la laïcité, mais forcément on est obligé de parler de démocratie, forcément on est obligé de parler de liberté de la presse, forcément on est obligé de parler de liberté de pensée, de liberté d'écriture, etc. Surtout que, là je parle sous le contrôle d'Aria Bologuzon qui en est mieux sur l'intérieur, mais c'est quand même un pays qui a connu sa liberté, c'est quand même, il a connu aussi tout un art justement de pouvoir se parler, de pouvoir savoir transcender tout cela. Donc c'est vrai que là on est quand même dans quelque chose qui s'est considérablement durci, vidé, quelque part, et que ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de faire la guerre à l'extérieur, parce que ça permet de canaliser justement des ardeurs et de ne pas se recruter sur les personnes qui pourraient résister à l'intérieur. Quoi.
Ariane Bronzon, il n'empêche, Erdogan, il est élu, réélu, avec de vraies élections, il est vraiment populaire, et s'il se présentait c'est pas truqué tout ça.
Bon, il y a des manipulations, mais sur le fond, les grandes lignes, non, c'est pas truqué.
Il pourrait les perdre,
En revanche, on voit par exemple qu'il essaie de laminer. Le grand choc pour lui, ça a été en 2015, si vous voulez, il espérait gagner. Non seulement l'AKP n'a pas fait un bon score, mais le parti pro-kurde, HDP, qui était un parti de gauche, qui est un parti qui était ouvert, si vous voulez, à l'écologie, à l'égalité des sexes, etc., a fait des très bons scores, c'est-à-dire qu'il a fait, pour la première fois, si vous voulez, il y a eu 13% à peu près de votes, c'est-à-dire 80 députés. Et c'est ce qui l'a conduit, si vous vous souvenez bien, à 4-5 mois après, en novembre, à rappeler à de nouvelles élections, avec, durant l'espace, une guerre sans pitié vis-à-vis des Kurdes dans le sud-est de la Turquie. Bon, il y avait ce qu'on appelle la guerre des tranchées. Et ça, si vous voulez, il y a eu une sorte de rébellion, de volonté des Kurdes du sud-est de s'imposer comme région autonome, etc. C'est très mal passé dans la population, ce qui fait que les votes d'électeurs qui n'étaient pas nécessairement kurdes, qui n'étaient pas nécessairement à gauche, mais qui étaient quand même allés vers ce parti pro-kurde de gauche, se sont déplacés. D'accord. Et que ce parti n'a plus que 50. Et depuis... il leur fait une guerre sans pitié, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de députés qui sont en prison, et il y a des maires en particulier qui ont tous été destitués, et pas remplacés par le second de la liste du conseil municipal, non, remplacés par des administrateurs, ce qui est sur le plan juridique, légal, politique, absolument inacceptable. On ne remplace pas un élu par un administrateur. Donc il essaye de laminer ce dont le président de ce parti est en prison. Hein. Il essaye de laminer. Et il essaye, en plus, c'est très ciblé, quand on regarde de près, il essaye d'éliminer ceux qui sont presque les plus modérés. Comme pour pousser à l'extrême, parce que ce parti a une aile pro-PKK, il faut le dire, c'est-à-dire ce PKK qui est une organisation terroriste selon l'OTAN et selon l'Union européenne, qui fait une guerre depuis 1984 et qui effectivement veut une autonomie très très prononcée, donc une scission.
Il préfère avoir des extrémistes en face de lui plutôt que des modérés.
C'est une hypothèse qui ne serait pas exclue.
Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, quand l'OTAN va-t-elle réagir? Peut-elle agir contre un de ses membres? Pascal Boniface, puisque l'OTAN et la France...
Non, il n'y a pas de procédure d'exclusion d'un membre, et puis les pays de l'OTAN ne veulent pas. Et c'est là où Erdogan joue un peu sur de velours. Il sait qu'il est difficile pour l'OTAN de répondre à ses provocations parce qu'ils ont besoin de lui. Et surtout, la grande crainte, c'est de le pousser un peu plus dans les bras des Russes, puisque finalement, en achetant des armes à la Russie, il a dit que j'ai un plan B. Si vous m'embêtez trop, j'ai le voisin du temps de la guerre froide, quand on était fâché avec une superpuissance, on allait voir l'autre. Et Erdogan joue un petit peu là-dessus.
Les Français présents en Turquie se sentent-ils en sécurité, Armel Charrier?
Pour l'instant, oui. Mais après, jusqu'à quand? Ça va évidemment être selon les tensions. Après, s'il y a la différence entre les diatribes et puis ensuite ce qui peut réellement se mettre en place. Donc, est-ce qu'il faudrait vraiment pousser la population? Bon, je ne pense pas qu'on en soit encore à ce point-là. Mais effectivement, par contre, tout est regardé de près parce que ça arrive rapidement. Vous voyez, on voit qu'on va quand même sur des désescalades rapides.
Quels sont les moyens de pression de la France sur la Turquie et ceux de l'Europe? Philippe de Sertine, on imagine que ce qui se passe en Turquie n'est pas de nature à inciter les investisseurs européens. Peut-être que Renault y réfléchirait deux fois avant d'aller implanter une nouvelle
usine. Peut-être même ils vont réfléchir à deux fois pour continuer d'investir là-bas. Ça, voilà. On peut avoir cette évolution-là, y compris aussi avec les alliés, on va dire, occidentaux, dans lesquels on pourrait mettre le Japon, qui a beaucoup investi aussi là-bas. Non, la vraie question, à mon avis, qui va se poser dans les temps rapprochés, ça va être la question de l'énergie que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, là, quand même, on a vraiment quelque chose de très important, qui d'ailleurs relie les deux côtés du Bosphore. Malgré tout, la Turquie est forcément partenaire de l'Europe parce que c'est par là que passent les grands gazoducs. Je crois vraiment que la question des gazoducs et de l'approvisionnement énergétique est absolument capitale. Parce qu'en réalité...
Ils peuvent nous couper le gaz, les Turcs?
Ben non, et surtout, et là, pour le coup, s'ils coupent le gaz, c'est la Russie qui...
Ils seraient furieuses.
Oui, c'est ça. Et vous étouffez l'Allemagne, vous étouffez la Russie. Et donc là, on a quand même une vraie grande question stratégique. Comme toujours, hein, en matière diplomatique, très très souvent, vous retrouvez l'énergie quelque part. Et là, je pense que c'est quand même l'endroit où, probablement, il faut rappeler, évidemment, la Turquie a un droit de péage, hein, c'est-à-dire quand les gazoducs passent, en fait, c'est une ressource très importante pour la Turquie. Donc on est quand même avec quelque chose sur lequel, à la fin, les milliards d'euros peuvent avoir quand même un impact.
Où en sont les relations entre la Turquie et la Russie, Ariane Bonzon?
Alors, le président Erdogan s'est extrêmement bien joué de sa relation avec la Russie. C'est-à-dire que quand on regarde en Libye, quand on regarde en Syrie même, quand on regarde en Azerbaïdjan, ils sont visiblement dans deux camps opposés. Et pourtant, Poutine a su faire cette chose en Syrie, c'est-à-dire donner, reconnaître à Erdogan et à la Turquie une place de puissance régionale. Vous vous rappelez la conférence d'Astana avec l'Iran, la Russie et la Turquie. Et donc il lui a donné une sorte d'épaisseur et on a un peu le sentiment qu'Erdogan voudrait rejouer cette même symphonie, ce même scénario en Libye et en Asie centrale. C'est-à-dire que bon, on a tous les deux, on se partage ces zones-là en zone d'influence entre la Russie et la Turquie. Je pense que sur l'Asie centrale, ça va être très compliqué parce que c'est vraiment le précaré de la Russie et que c'est peut-être, on va voir, la chose de trop, à moins, et c'est une hypothèse qui est émise par un certain nombre d'experts, à moins qu'en vérité, ce qu'il essaye de faire en Asie centrale, c'est d'avoir un deal avec Poutine pour que Poutine ferme les yeux sur l'annexion de Chypre. Mmh. Où vous savez que le Nord, la République turque de Chypre Nord, est aux mains d'un gouvernement pro-turc, il y a une communauté turque, là, il y a des militaires, 30 000 militaires turcs qui occupent Chypre, Chypre étant quand même un membre de l'Union européenne. Et ça va être, en vérité, ça va être ça le gros dossier des mois qui va venir sur le plan géopolitique, ça va être un des grands dossiers.
L'armée turque est-elle puissante, Armel Charrier?
Oui, elle l'a été terriblement. c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure. Elle a été terriblement, plus c'est une armée qui sait parfaitement combattre, qui est parfaitement aguerrie, qui a toujours su très bien avoir des budgets et être structurée, qui a toute son histoire une habitude de conquête, donc ça fait partie de son ADN. On l'avait vu ces derniers temps, en 2016, justement, quand il y a eu cette tentative de putsch sur Erdogan, qui l'a rapproché de Poutine d'ailleurs, parce que c'est Poutine qui l'a prévu. Il a fait un nettoyage, parce qu'il a nettoyé les
Gulenistes. Il était prévu du putsch militaire contre lui par les Russes.
Par les Russes, c'est ce qui a changé un peu la donne en Syrie aussi. Mais pour revenir sur l'armée, indiscutablement, il a nettoyé. Et donc, à un moment donné, on a vu que c'était un peu moins stable parce que les contrôles de frontières, ou la façon dont il y a eu un moment donné où l'armée turque était un peu plus flottante, certainement parce qu'il y a eu ce moment où il y a eu justement les changements des Gulenistes. Mais là, avec ce qu'il a montré, c'est qu'effectivement, il a réussi à redispatcher et qu'elle est parfaitement opérationnelle. En plus, c'est une armée qui sait travailler avec des supplétifs. Traditionnellement, de tout temps, quand elle a besoin d'intervenir quelque part, elle sait aller chercher, on dit supplétifs, on pourrait dire des mercenaires, on pourrait dire des djihadistes, vous le dites comme vous voulez, mais elle sait travailler de cette manière-là.
Quels pays soutiennent Erdogan au sein de l'OTAN ? Pascal Boniface, mais l'OTAN, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle n'est pas en état de mort cérébrale ? Est-ce qu'on a encore à choisir son camp ? C'est un club qui sert à quoi ?
Qui sert grosso modo quand même à maintenir l'unité des pays européens et surtout une influence américaine en Europe. C'est quand même le but principal.
Mais on apprend, c'est John Bolton qui le disait l'autre jour, que Donald Trump avait même songé en 2018 à sortir de l'OTAN.
Oui, en fait, il fait un peu une menace pour que les pays européens augmentent leurs achats d'armes aux États-Unis en disant « si vous ne faites pas ça, je peux partir ». Les Européens, ayant toujours peur de cela, eh bien, acceptent de dépenser un peu plus. Là, pour l'instant, aucun pays de l'OTAN, parce que les pays de l'OTAN, c'est le Canada, les États-Unis, des pays européens et la Turquie. Donc, les autres pays... Vous remarquez que les États-Unis ne se mêlent pas de cela. Alors, c'est la campagne électorale, c'est etc. Mais en fait, le seul reproche que Trump fait à Erdogan, c'est d'avoir acheté des armes à la Russie. Tout le reste, ils s'en fichent complètement. Mais les autres pays de l'OTAN sont quand même plutôt sur la position française. Le secrétaire général de l'OTAN a pris une position pour faire des remontrances modérées à Erdogan, pour ne pas non plus, une fois encore, le pousser trop dans les bras de la Turquie. Mais ça ne sert pas à grand-chose.
Philippe de Sertine ?
À la limite, si on devait trouver quelqu'un, ce serait les États-Unis. Donald Trump a construit des tours. Enfin, le groupe Trump a construit à Istanbul. Donc, on considère quand même qu'il y a un lien relatif. Bon, et pendant toute l'histoire récente...
Vous êtes en train de dire que les intérêts privés de Donald Trump pourraient avoir une influence sur la politique étrangère des États-Unis ?
Ça ne fait aucun doute que si c'est Joe Biden qui sera élu, il n'aura pas probablement la même vision vis-à-vis d'Erdogan, ne serait-ce que pour cette raison. Et après, quand même, dans le passé, vous avez eu... Donc, notamment dans l'armée, une infiltration très forte, on va dire, des intérêts américains, parce que quand même, effectivement, on va dire, la Turquie était un élément clé par rapport, à l'époque, à une avancée possible de l'URSS. Donc, il y a quand même toujours un lien qui demeure, mais qui a été très, très largement épuré par Erdogan, notamment quand, après le putsch raté de 2016, Erdogan a sorti, en disant d'ailleurs que c'était la CIA qui était derrière, hein, quand même, a sorti tout ce qu'on a appelé les gulenistes, c'est-à-dire des gens dans l'armée, notamment, dans la police, mais aussi dans l'armée, qui étaient associés à Gulen, qui était en exil aux États-Unis.
Qu'est-ce qui pourrait freiner les ambitions d'Erdogan ? Une exclusion de l'OTAN, on en a parlé, alors un revers militaire, une économie au plus bas, Armel Charrier, pendant ce temps-là, le peuple turc, il souffre, on dit qu'il y a beaucoup d'inflation.
L'économie au plus bas, c'est vraiment la question vraiment centrale, parce qu'en plus, faire autant de guerres, ça coûte de l'argent. Vous imaginez, quand il faut faire une guerre en Syrie, une guerre en Libye, une guerre au Karabakh, une guerre avec les forages, ça demande effectivement beaucoup d'argent. Alors c'est vrai qu'il y a un bailleur de fonds important derrière la Turquie, qui est le Qatar, et donc que le Qatar est un pays riche
de pétrole. Le Qatar accorde des prêts à la Turquie.
Ah oui, parce que c'est toute l'alliance des frères musulmans, donc le Qatar est le seul pays vraiment qui soutient économiquement du Golfe la Turquie, et donc il se renvoie la balle régulièrement. Mais quoi qu'il arrive, l'économie turque, effectivement, est compliquée, avec en plus le Covid.
L'économie turque est fondée surtout sur sa consommation intérieure, qui elle-même s'appuie sur un endettement toujours plus fort. Ouais. Le problème, c'est qu'effectivement, la dette beaucoup trop forte pour financer la consommation a conduit à la détérioration très très forte de la monnaie. C'est-à-dire la monnaie, en fait,
elle a
perdu 30%, 30% de valeur. C'est surtout la perte de la monnaie qui a été très sensible.
Erdogan achète-t-il des armes à la France ?
C'est très modeste, peut-être, mais
c'est
pas
significatif. Il en a acheté.
Erdogan va-t-il nous refaire du chantage aux migrants ?
Si il le fera. On voit qu'il n'a aucun scrupule à utiliser la patte humaine en, en échange, en otage, en pression. En pression.
Que l'Europe verse des milliards à Erdogan en échange du contrôle de ses frontières extérieures.
6 milliards sur 6 ans, mais bon, c'est pas ça qui l'empêchera. Enfin, je veux dire, là, il y a une... Et c'est de ça dont Mme Merkel a peur, d'ailleurs. Hein. Elle est très...
Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu effectivement une entente Macron-Merkel cet été à Brégançon, quand ils sont allés discuter de la question de la Turquie, il y a cette question des migrants qui est revenue, et les migrants qui arrivent de la Libye, qui sont un autre passage, et qui, elle, est aussi un autre problème.
Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion ce soir à 22h50. Et bien sûr, vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.